zine que vous allez suivre est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. On la savait, blogueuse, conférencière, poétesse et la voici romancière pour nous raconter un destin de femme irrigué par l'afroféminisme et l'art de la poésie qu'on lui connaît, celui d'une petite fille qui deviendra adolescente et mère, une enfant de la terre camerounaise qui, nourrie par ses rêves, recherche la lumière pour vivre et s'épanouir tout simplement. Sauf que ce n'est pas simple du tout quand on vous empêche d'aller à l'école, qu'on se fait trahir par les hommes ou quand on émigre vers un Eldorado qui se révèle une chimère. Et pourtant, cette héroïne du quotidien, fille du rêve, de la danse et du soleil, continue de se tenir debout dans la lumière et refleurir. Le premier roman de Kiemi s'est paru chez Philippe Ray et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Kiemi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous l'écrivez à la toute fin du livre dans les remerciements en utilisant d'ailleurs une métaphore botanique. Ce roman germe en moi depuis mon enfance. La graine a donc été plantée il y a quelque temps déjà. C'est votre météo personnelle qui en a retardé les premiers bourgeons ?
Oui, tout à fait. Je crois que avant d'arriver au roman, avant de m'attaquer à une histoire aussi belle et puissante et difficile à écrire, il fallait que je tente. J'avais besoin de dire d'autres mots. Et puis moi, souvent, quand j'écris, j'écris parce que j'entends les mots. Et donc, c'est arrivé un petit peu plus tard.
Et donc, il y a eu un élément déclencheur qui vous a fait passer de ce que vous faisiez jusqu'à présent au roman ?
Je crois qu'après avoir écrit un recueil de poésie et un essai, je me suis dit que j'étais prête. Et souvent, il faut se dire qu'on est prête. Et puis aussi, souvent dans mon parcours, l'écriture émerge dans la rencontre et dans de très belles rencontres avec des éditeurs et des éditrices. Et en rencontrant l'éditrice qui m'a accompagnée dans l'écriture de ce roman, je me suis dit, OK, c'est le bon moment, c'est le moment où je vais pouvoir... créer librement. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, c'est bon, tu es prête à écrire ton premier roman.
Alors, vous ajoutez que le roman a éclos au cœur des tempêtes, qui vous a même servi de bouée pour ne pas couler. Ça veut dire que écrire vous a fait du bien ?
Écrire, c'est toujours ambigu. C'est à la fois, ça me fait beaucoup de bien, à la fois, j'écris aussi pour guérir, et à la fois, l'acte d'écriture... Et parfois assez difficile. Et j'avoue que pour Et refleurir, il a été souvent difficile. Donc c'est vraiment très ambigu. Mais effectivement, je crois qu'écrire ce roman, ce mythe, cette épopée, comme je dis souvent, ça m'a fait du bien. Ça m'a sauvé.
Un mythe, une épopée et pourtant une histoire intime. Une histoire familiale aussi.
Tout à fait, puisque Andoun est inspiré de, donc très fortement inspiré de ma grand-mère, de l'histoire de ma grand-mère. Mais je crois que c'est parce que j'ai tendance aussi à avoir les modèles très proches, mes propres modèles féminins, pas forcément féministes, hein, bon, pour ma mère assez féministe quand même, mais pour ma grand-mère assez féminin. C'était elle. Avant même d'avoir lu des penseuses afroféministes, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, c'était elles qui m'inspiraient, leur puissance m'inspirait. Le fait qu'elles soient debout, qu'elles parlent fort, qu'elles soient belles, ça m'a toujours inspirée en fait. Et donc finalement, c'est pas étonnant que j'ai voulu écrire un mythe ou une légende sur ces femmes qui m'ont inspirée.
Alors, quand commence le roman, Andoun est une petite fille qui travaille dans les champs d'arachide avec sa famille dans son village de Nyokon au Cameroun, dans la région du centre. Elle travaille la terre, hein, c'est une tâche harassante et elle n'aime pas ça. Pourtant, la mission est un peu plus noble, car son travail, écrivez-vous, est d'aider à faire fleurir la terre. Mais un miracle va se produire, nous sommes à la page 17 de votre livre.
Elle était toujours seule. Lorsqu'elle ouvrit la main, une longue tige verte avait remplacé la racine d'arachide. Au bout de celle-ci, une sphère d'un jaune intense, un petit soleil, doux sur sa paume. Lorsqu'elle releva la tête vers l'horizon, un éclair frappa ses yeux. Il lui fallut du temps pour s'habituer. L'image était tellement saisissante qu'elle l'avait éblouie. Elle vit que les plants d'arachide avaient disparu. À la place, des milliers de petites tiges vertes sur lesquelles reposaient de petites boules de lumière. Elles ondulaient, agitées par un vent d'origine inconnue, et les fleurs se mouvaient lentement. Une immense vague de lumière. Hypnotisée, Andoune restait coite devant le spectacle qui s'offrait à elle. Elle avait l'impression que la lumière la pénétrait tout entière, passant par ses globes oculaires, traversant son cerveau pour se diffuser dans ses veines et y déverser une sensation étrange qui lui piquait le bout des doigts. Elle posa le regard sur ses mains. Les traces de terre coincées sous ses ongles courts disparaissaient. Fini les arachides, fini la houe, fini la sueur, fini le labeur. Seule restait la douceur des fleurs qui l'invitaient à les rejoindre. Elle fit un pas, puis un autre, et un autre encore. Bientôt, elle fut au milieu du champ. Baignée par la lumière des pétales, elle avait l'impression de danser avec des milliers de soleils.
Comme il est beau ce passage qui est mis, qui se trouve vraiment au tout début de votre récit, on dirait un rêve. Et de fait, c'est vraiment un rêve que cette danse des soleils et de la joie, ce jaune qui apparaît dans le vert du champ d'arachide, cette lumière qui se diffuse. C'est un rêve d'ailleurs que Andoune fait et refait, parfois avec quelques variantes tout au long de votre récit. En fait, ce rêve, il résume tout le roman. Andoune, c'est une sorte de chasseuse de lumière.
Tout à fait, ça résume beaucoup de choses. Effectivement, c'est une chasseuse de lumière, mais aussi, je crois que, et on le voit dans tout le livre et dans la manière dont je parle aussi, il y a la question des racines qui est clé aussi. Où sont les racines? Comment on s'envole? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Qu'est-ce qu'on emmène? À quel prix on va chercher la lumière aussi? Et je crois que ça se déploie dans le livre et aussi dans ce rêve.
Donc il y a effectivement la terre, la fleur, l'air, le soleil. Et elle recherche plusieurs types de lumière, en fait. Elle recherche la lumière de l'amour, évidemment. Elle recherche aussi la lumière de l'instruction, parce qu'elle veut aller à l'école. Mais c'est plus facile de le vouloir que d'y aller réellement dans le livre.
Tout à fait. Je crois que c'était quelque chose qui a été récurrent dans l'histoire d'Andoune, cette manière dont elle est empêchée d'aller vers ses rêves. On lui dit qu'elle a envie d'aller à l'école, en fait. Elle a envie de s'élever. Je pense que c'est ça, en fait, de manière plus générale. Et elle considère que l'école, c'est une manière de s'élever, mais elle est empêchée. Elle est retenue, même, je dirais.
Parce qu'elle est issue d'un milieu pauvre ?
Je pense que parce qu'elle est issue d'un milieu pauvre aussi, parce que je pense que s'élever, c'est risquer. S'élever, c'est partir. S'élever, c'est risquer. Et parfois, certaines personnes, je pense que je le dis beaucoup dans le livre aussi, certaines personnes peuvent plus ou moins se permettre le risque.
Alors, le risque, c'est aussi le rêve. Est-ce que pour avancer dans la vie, pour risquer, qui est mise, il faut savoir rêver?
Oui, je pense que c'est clé. Je pense qu'on risque parce qu'on rêve. On risque parce qu'on a la foi. Quand je pense au fait de risquer, c'est aussi de sauter, en fait, de sauter dans l'inconnu, d'avancer dans le noir, en fait, parfois. Et je pense que ça, c'est seulement possible. De mon point de vue, en fait, on arrive seulement à la rationaliser si on pense qu'il y a la lumière, si on pense qu'il y a le meilleur nous attend. Sinon, pourquoi risquer? C'est tellement quelque chose qui nous est, je pense, étranger. On a plus l'habitude de vouloir se protéger, se conforter. Donc pour pouvoir sauter, pour pouvoir faire ce mouvement qui est contre-intuitif, il faut rêver.
Le rêve, la lumière et la danse sont les trois motifs récurrents. D'ailleurs, vous dédiez le livre qui est mis à toutes les danseuses, les rêveuses présentes ou passées qui méritent d'être illuminées. On a vraiment les trois éléments que je viens de citer. La danse, le rêve, la lumière, ce sont trois images qui se confondent.
Oui, je crois que ça, c'est vraiment... Ça m'appartient. Je crois que c'est parce que la danse... c'est quelque chose qui est très important pour moi. Étrangement, je ne suis pas danseuse. J'aime danser, mais je ne sais pas danser. Mais ce que me procure la joie, la connexion, le mouvement, aussi la joie, tout simplement, le rire, la rencontre, c'est aussi ce que j'avais envie de raconter. Je pense que si parfois la danse, ça sauve. Peut-être que j'enfonce une porte ouverte, même, je pense. Je pense que je ne suis pas la seule à le penser. Il y a plein d'associations qui pensent ça. Je pense à l'association qu'avait Belewa Sabourin, notamment pour les femmes qui étaient victimes d'agressions sexuelles. Je crois que, même au-delà de ça, je crois que la danse, ça sauve. Être en mouvement, ça sauve, en fait. Un mouvement de vie. Je crois que quand on danse, on est en vie.
Gracias. amo mucho.
À quoi bon tant d'ivresse? Est-ce pour la beauté du geste? Est-ce pour fêter ce qui reste? Ou juste pour l'ivresse? Ou juste pour l'ivresse? À quoi bon tant d'ivresse? Est-ce pour la fuite en avant? Pour qui dit-on la messe? Le regard loin devant, le regard en dedans. De pétales, je vais les déposer ici, au nom de la vie qui détale, au nom de ceux déjà partis. Et je boirai à notre santé, à nos amours, à nos regrets. Et si la lune boit aussi, c'est peut-être qu'il fera pas beau demain. Alors profitons d'aujourd'hui, profite, prends ma main. Forêt, les yeux fermés, embrassons-nous, embrassons-nous, à pleine bouche, à bouche bée, embrassons-nous, embrassons-nous, embrassons-nous comme par hasard, embrassons-nous sur ce trottoir, embrassons-nous dans la voiture, embrassons-nous à toute allure, car l'aventure, c'est l'aventure, oui l'aventure. Nos fantômes se seront tus pour faire durer la fête. Je chanterai à tue-tête pour la beauté du geste, pour la beauté du geste.
Embrassons-nous Gatica avec l'accordéon de René Lacaille, extrait de la playlist RFI de ce mois-ci dans VMDN avec Kiyemis pour son premier roman Et Refleurir, paru chez Philippe Rère, le destin d'Andoune, qui parfois s'appelle Andoune et parfois s'appelle de son nom de baptême Anne-Marie, parfois même d'une ligne à l'autre, vous utilisez l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui vous fait opter pour tel ou tel prénom, Kiyemis?
Je crois que c'était important pour moi de montrer les différentes facettes de ce personnage qui évolue au fil de, évidemment du livre et au fil de sa vie. Et je crois qu'une manière de montrer ça, de montrer ses métamorphoses et c'est va-et-vient, je dirais, entre ces différentes facettes. C'était aussi de le faire par le nom. Et aussi parce que le personnage et la personne qui l'inspire sont appelés de manière différente.
Absolument.
En
alors,
fonction des personnes.
Elle va être aussi appelée Coco dans la dernière partie du roman, quand elle vit en France et qu'elle s'asperge de parfums Chanel. voilà. Alors, vous êtes romancière, Kiyemis, hein, mais vous êtes aussi poétesse. Et au cœur du roman, il y a de courts chapitres en vers, souvent des vers libres, qui nous permettent d'entrer un peu plus dans la psyché d'Andoune ou d'Anne-Marie, hein, c'est selon. Il fallait des vers pour rythmer la prose.
Tout à fait. La poésie, j'en profite d'être avec vous aujourd'hui pour dire que la poésie, c'est la vie. La poésie, c'est le rythme, c'est le mouvement, c'est aussi... Déjà, c'est... La poésie, c'est ça qui m'a ramenée à l'écriture. À un moment, j'arrivais plus à écrire et ce qui est sorti, c'était de la poésie. D'où « À nos humanités révoltées ». Et je crois que je ne veux pas abandonner la poésie, même quand je veux faire un roman. D'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence. Au début, je pensais que j'allais écrire un récit poétique. Sauf que l'histoire d'Andoune était beaucoup trop massive et j'avais besoin de plus de place que la poésie me permettait, mais elle ne m'a pas quittée.
Mais la poésie, c'est pas forcément des vers, la poésie, ça peut être de la prose.
C'est vrai, tout à fait, mais c'est vrai que je pensais, en tout cas quand je pensais au récit poétique, je pensais vraiment des vers libres. Et donc c'est ça, je pense, qui demeure. Et par ailleurs, dans l'écriture, il y a eu des moments où, comment dirais-je, la poésie m'est venue beaucoup plus facilement. Je trouve qu'elle permet à la fois une finesse et aussi, je sais pas, je crois qu'il y a des épisodes qui étaient beaucoup plus simples de dire en vers plutôt que dans le récit narratif.
Nous sommes à la page 81 de votre roman.
Les filles tâtonnent, l'homme avale. Sous sa langue, les mots fuient. Basculer vers ses épaules à lui la fait frémir. Ses mains à elle interrogent. Puis-je vraiment me tenir à des épaules si larges, trop larges, à la merci d'un regard affamé de jeunesse, son désir titube. Les filles tâtonnent, l'homme avale. En Doom, Anne-Marie veut tout savoir, elle aussi. En Doom, Anne-Marie n'a jamais été ivre, jamais comme ça. Il y eut ses baisers à lui, carnassiers, conquérants. Il y eut ses caresses voraces et ses oui égoïstes. Les hommes matures savent défaire la fébrilité des interrogations juvéniles. Il suffit de se servir. Oh, comme les hommes savent se servir, comme ils savent prendre. Les filles tâtonnent, les hommes avalent. Rencontre pyromane. Anne-Marie sent la braise naissante. Un homme n'est jamais trop heureux lorsque la forêt qui brûle n'a jamais été visitée auparavant. Les conquérants viennent cueillir. La douleur passagère, des vierges comme des trophées. Dans cette danse bien attendue, Anne-Marie se sent belle. L'ivresse d'être choisie perd la jeune danseuse. Les doux vertiges transforment la conquête en plaisir trompe-l'œil. Aveuglée de passion, Anne-Marie saisit l'illusion à pleine bouche. Les filles tâtonnent et l'homme, pour fuir la mort, tente de tout avaler.
Et l'un des fils rouges du livre qui est mis, c'est la relation d'Andoun avec les hommes. Il y a son père, bien sûr, hein, qui aime profondément sa fille, mais qui a peur du qu'en dira-t-on et qui protège la réputation de sa famille. Il y a Roger, un militaire, qui va l'abandonner. Il y a Stéphane, son frère, qui vit à Paris. Il y a Isère, qui est un prétendant agréé par son père, mais qui sent l'alcool et le poisson, parce qu'il est pêcheur, ce qui dégoûte profondément Anne-Marie. Il y a André, qui est un manœuvrier sans scrupules et qui est servile et obséquieux avec les colons. Il y a Renaud, qu'on découvre dans la dernière partie du roman. Il y a aussi un politicien véreux, un conseiller bancaire beau-parleur et infidèle, un patron harceleur récidiviste. Bref, quand même, vos personnages masculins, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas le beau rôle qui est mis.
C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on me dit ça, mais c'est vrai qu'ils ont des caractéristiques qui, comme ça, décrites, paraissent assez négatives. Et je crois que c'était important pour moi d'écrire des personnages masculins quand même contrastés. Ces caractéristiques, elles ne sont pas... je dirais qu'elles viennent de certains contextes. Voilà. Je prends l'exemple d'André, par exemple, qui effectivement est un père de famille assez violent, mais c'est aussi un père de famille camerounais dans une colonie qui est victime de racisme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être violent ? Absolument pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de discuter. Ces masculinités particulières, difficiles, contrastées. Et j'ai plusieurs poèmes, d'ailleurs, qui définissent ces masculinités africaines, ou non, d'ailleurs, puisque les personnages des hommes qui ne sont pas africains sont aussi assez décriés.
Mais puisque vous parlez d'André, qui est Miss André, il travaille dans un palace. Et il est servile, il est obséquieux avec les Blancs, avalé pour survivre. C'est comme ça que vous décrivez son vademécum, hein, ce qui lui permet d'avancer finalement dans cette société. Est-ce que pour vous, qui est Miss André, est un collabo ?
Alors, oula.
Le mot est violent, mais on peut se poser la question quand on le lit.
Est-ce qu'il est collabo ou est-ce qu'il essaie de survivre ? Est-ce qu'il est servile ou est-ce qu'il se protège et protège sa famille ? Est-ce qu'il est obséquieux ou est-ce qu'il est... traumatisé. Je pense qu'en fonction de nos représentations, ça change, je trouve.
Vous avez plutôt tendance à lui trouver des excuses.
C'est pas des excuses, c'est de la nuance. C'est de la nuance. Et je pense que c'était important d'écrire ces personnages qui, de fait, sont des personnages qui ont oppressé, mais qui sont aussi oppressés. Et qui sont aussi tiraillés, je pense, par des injonctions multiples aussi.
Mais en même temps, la mère d'Andoune lui dit à un moment de votre récit, je te l'avais bien dit, on ne peut pas compter sur les hommes.
Non, c'est vrai. C'est vrai aussi.
C'est pas un peu la morale du récit, ça aussi ?
Non, je crois pas. Enfin, ce serait triste quand même. C'est vrai que beaucoup des hommes ont un soutien contrasté, je dirais. C'est pas même contrasté, je dirais qu'il est compliqué. Il est risqué. Mais pourtant, Andoune, je crois qu'elle en a besoin quand même. Elle le recherche aussi, malgré tout.
Andoune est pragmatique.
Oui, Andoune est pragmatique dans sa situation, mais Andoune est aussi amoureuse. Andoune est aussi une femme dans une société qui nous pousse à aimer, malgré tout. Malgré les failles, d'ailleurs.
Mais alors, sa mère dit aussi à Andoune, « Ma fille, tu es un homme, tu es l'espoir de cette famille. » Comment est-ce qu'il faut comprendre cette phrase ?
Je pense que ça, c'est clé dans la manière dont se transforme Andoune. Il y a, je pense, une idée, en tout cas, il y avait une idée dans la manière dont Andoune est construite, qui est que si, justement, elle tient tête, si elle est debout, si elle est devant, si elle assume, elle ne peut pas vraiment être une femme. Parce qu'une femme, ce n'est pas ce qu'on lui demande, en fait. Une femme, on lui demande... en tout cas, on lui demandait, je dirais, d'être soumise, de se laisser guider. Or, ce n'est pas l'histoire d'Andoune.
Ah, pas du tout, c'est encore plus dur. Au contraire.
À la fois, ce n'est pas ce qu'elle veut, et c'est à la fois aussi pas ce qu'il faut pour survivre. Et je pense que ça, du coup, ça transforme quand même ses rapports, la manière dont elle est vue, à la fois par sa famille, parce que du coup, il faut commencer à assumer aussi, parce qu'on voit qu'Andoune assume, donc même avant ça, d'ailleurs, on lui demande quand même de prendre en charge certaines choses. Donc une position qui est, je pense, moins demandée. Quand on est une femme, c'est plus une injonction qu'on donne aux hommes, de tenir la famille, etc. Et aussi, du coup, pour elle, ça devient de plus en plus compliqué de dire oui, d'être amoureuse, de se laisser porter aussi. Et donc, je pense que c'est important aussi de dire que Andoune, c'est une héroïne, c'est son épopée, mais elle aussi, c'est un personnage contrasté. Elle aussi, elle a des envies contradictoires, en fait. Elle a à la fois envie de se tenir droite et puis elle a aussi envie de dire oui aussi.
Chargée de sable, elle roula contre courant. La ville est calme, le nuage est rouge. Ce matin à ses goûts, personne ne bouge. Ils sont passés où ? Tous les gens de ses goûts sont passés où ? Tous les gens de ses goûts. Elle dépasse enfin le pont de Marcala. Le regard dans l'eau, mais aucune barque est là. Pas même un caïman, ni la moindre vague. Le Niger endormi paraît tristement calme. Il s'est passé quoi à Marcala ? C'est passé quoi à Marcala ? Quand elle atteint le grand marché de Mopti, le ventre froid et la bouche sans appétit. Mami Wata se noie dans ses propres larmes. La place est vide, le pêcheur a rendu l'âme. Il est parti. Le pêcheur de Mopti, il est parti. Le pêcheur de Mopti, le pêcheur de Mopti, le pêcheur de Mopti. Mami Wata, elle pleure. Mami Wata a le cœur fragile comme les fleurs. Mami Wata, elle crie chaque fois que le sang coule sur la berge du fleuve. Mami Wata, elle pleure. Mami Wata a le cœur fragile comme les fleurs. We'll be right back.
dernière prière. Quand le vent du nord commence à lever la poussière, chargé de sable noir et de mauvais présages, l'armatan s'installe dans le ciel bleu des villages. Cette nuit la musique du balafon ne chantera pas.
Mami Wata, El Gato Negro, featuring Pat Callas dans VMDN sur RFI avec Iemis pour son roman Et Refleurir aux éditions Philippe Ray. On peut être étonné d'ailleurs de la façon dont le titre est écrit sur la couverture qui est mise, parce qu'il y a une virgule entre les deux mots. Et virgule, refleurir. Qu'est-ce que vous mettez dans cette virgule ?
Merci de me poser la question, parce que la virgule est essentielle. Qu'est-ce que je mets dans cette virgule ? Je mets une pause. Je mets tout ce qui s'est passé avant la refloraison, parce que je pense que pour moi, c'est important d'écrire un récit qui est une épopée, mais je crois que ce qu'on en retire beaucoup, c'est la question de la lumière. Mais il est important pour moi d'exprimer le fait que cette lumière, elle vient après des nuits très sombres. Et c'est vraiment important pour moi de souligner ça. Pourquoi ? Parce que je pense que si on ne voit pas à quel point les nuits sont sombres, on ne peut pas profiter des rayons du soleil. Et c'est ça que je trouvais merveilleux dans l'histoire d'Andoun, c'était cette capacité à la magie au moment même où vraiment ça me paraissait, c'était irrationnel d'imaginer qu'il allait avoir la lumière à nouveau. Et donc voilà, c'est, je pense que c'est tout ce que dit cette virgule, c'est le sursaut. Et c'est vraiment une admiration pour le sursaut, en fait, et une admiration pour l'aube.
C'est vrai que le destin de votre héroïne est plutôt heurté. Alors, elle voyage beaucoup hein, au gré des différentes péripéties. Parfois, elle obéit à son père qui l'envoie à Douala. Parfois, elle prend elle-même la décision de partir, de claquer la porte après une dispute ou un coup de colère, ce que vous appelez un orage. On reste encore une fois dans la métaphore du ciel, des éléments, de l'eau, etc. Parfois, elle prend la fuite. Parfois, elle a en tête un projet très précis, c'est le cas quand elle décide de partir en France pour rejoindre son grand frère Stéphane. Et là, le choc est rude parce que, bon, comme beaucoup d'Africains qui débarquent en Europe, elle n'aime ni le froid, ni la grisaille, ni la nourriture qu'elle juge beaucoup trop fade. Mais il y a aussi le racisme au quotidien. Alors, on est dans les années 70, hein, c'est un racisme qui est beaucoup plus décomplexé qu'il ne l'est aujourd'hui. Bref, elle tombe de haut.
Oui, je crois que j'avais envie de raconter ça aussi parce que je ne voulais pas raconter un Eldorado, parce que c'est pas ce qui s'est passé. Et aussi, je pense que ce qui est important aussi pour Andoun, c'est de comprendre que, encore une fois, cette vision fantasmée de la France, elle est plutôt ambiguë. Parce qu'en même temps, elle a envie de partir, mais je pense qu'elle, dans sa tête, que ce soit le personnage ou la personne, il y a cette envie de revenir, en fait. Donc on se dit pas on va à l'Éden et on s'installe dans l'Éden. On se dit on part et puis on va tenter sa chance et puis on va potentiellement revenir. Ce que je note, c'est aussi ce décalage entre ce qu'elle a été, comment elle se voit aussi et comment elle est vue des autres. Et je pense que je voulais vraiment le signifier.
Oui, c'est intéressant que vous parliez aussi de la façon dont elle se voit elle-même, parce que j'ai noté effectivement deux phrases. La vie en France rendait très vite beaucoup plus humble, page 234, et puis un petit peu plus loin, page 260. La France exigeait qu'elle renonce à tout ce qu'elle avait été avant. C'est terrible, ça, finalement. C'est que c'est vraiment tout ce qu'elle a construit qui est remis en question.
Oui, tout à fait. Puis je pense qu'il y a... Je pense que ça, c'est aussi de ma position en tant qu'autrice et en tant que personne qui est née aussi ici. C'est pour ça que j'écris comme ça. Je pense qu'il y a une vision, quand on est ici, des gens qui viennent. C'est comme s'ils n'avaient pas eu de vie avant. Comme s'ils n'avaient pas eu de rêve, ou comme si leur rêve ne comptait pas, ou comme si la manière dont ils se voyaient ne comptait pas, leur diplôme ne comptait pas. Je parle aussi... je ne sais pas si on aura le temps d'en parler aussi, de la question de la féminité, de la beauté aussi, qui est dévaluée en fait quand elle arrive en Occident. Et c'est aussi pour ça qu'une bonne partie de mon récit se passe avant l'arrivée, parce que j'avais envie aussi de raconter toute cette vie en fait qui existe, toute cette lumière, toutes ces péripéties, toutes ces aventures, ces souffles, ces tempêtes en fait, qui ont existé avant. Et je pense que mettre de côté ça, c'est mettre de côté une grosse partie de l'humanité des personnes qui voyagent.
Alors l'humanité et puis l'orgueil, parce qu'elle a aussi son petit orgueil qui est mis, qui est parfois mal placé, mais qui est parfois solidement accroché à terre, justement, en particulier quand elle cherche du travail. Donc là, on est vraiment dans la partie française de votre récit. Hein. Elle cherche du travail et elle finit par trouver un emploi de femme de ménage. Dernier extrait de votre roman, nous sommes à la page 265.
Depuis qu'Anne-Marie avait commencé ce boulot, elle avait l'impression de disparaître. Cela tombait bien, on attendait d'elle qu'elle se fasse invisible. Il fallait à tout prix préserver ces messieurs des bureaux du son de sa voix, comme du bruit du chariot dans lequel elle trimballait son matériel. Peut-être que les produits d'entretien contenaient un ingrédient spécial qui la rendait inaudible. Peut-être que le tablier qu'elle enfilait dans les vestiaires était en réalité une cape d'invisibilité. Elle n'avait pas particulièrement envie d'être vue par ces messieurs dont les mains blanches aiment se balader dans des endroits où elles n'ont rien à faire. Mais c'était quand même étrange comme expérience de disparaître tout à fait. Depuis qu'elle avait commencé ce boulot, Anne-Marie avait encore plus envie de porter des vêtements colorés. Alors parfois, elle sortait tout le contenu de sa valise et se drapait de vert pétant, de bleu roi, de rouge profond. Il fallait bien tromper la grisaille de la France. Il fallait bien respirer les reliques d'une vie passée, une vie où sa beauté lui ouvrait les portes. Ici, à Paris, elle s'était transformée en mère courage, une mère qui attachait le foulard pour se cacher ses cheveux, une mère qui prenait le métro de 5 heures, une mère qui dormait sur un canapé, une mère qui n'arrivait plus à aider sa fille lorsqu'elle faisait ses devoirs. Depuis qu'elle avait commencé ce boulot, Anne-Marie avait appris à vivre en apnée. Après des heures de récurage, les vapeurs des produits dont elle aspergeait les bureaux des Blancs pour les faire briller lui donnaient le tournis. Son nez avait dû s'adapter. Dès qu'elle sortait du vestiaire, elle se préparait à utiliser le moins d'oxygène possible. Pousser le chariot, faire un signe de tête au vigile, qui ne manquait pas de la saluer, de porte en porte. Elle prenait le moins de respiration possible, sinon les produits de nettoyage risquaient de la rendre malade et de la faire disparaître pour de bon. Elle ne pouvait pas se permettre de disparaître.
Et cette vie en apnée ne lui convient guère, qui est mise. D'ailleurs, le mot apnée, c'est un mot très très fort. Là encore, on n'est pas dans la métaphore florale, mais pas très loin finalement. On est vraiment dans une forme de respiration. Elle est complètement sous l'été noir, là, finalement, à ce moment-là, votre personnage.
Tout à fait. J'aimerais bien revenir sur le fait qu'on ait dit qu'elle avait un petit orgueil, parce que je pense que c'est important.
Oui, pas un petit. Je suis pas d'accord avec vous. Elle a un gros orgueil.
Elle a un gros orgueil.
La fierté, c'est aussi un trait vraiment important de son caractère.
Tout à fait. Et je voulais vraiment insister là-dessus, parce que j'espère que mon éditeur ne sera pas trop mécontent que je le dise. Mais c'est vrai que moi, je dis qu'Andoune, c'est une femme prétentieuse.
Ah oui.
Elle est très prétentieuse, elle est très orgueilleuse et moi je trouve ça absolument admirable.
Alors là vous m'étonnez parce que prétentieuse, ça veut dire qu'elle a justement une prétention à aller plus loin, plus haut que ce qu'elle vaut, plus loin, plus haut que ce qu'elle est, de ce qu'elle mérite. Et là, je ne suis pas complètement d'accord avec vous quand j'ai lu le livre.
Hein. Je dirais pas plus haut que ce qu'elle mérite, effectivement, mais plus haut que ce que les gens pensent qu'elle mérite.
Ah, mais ce n'est pas la même chose.
C'est vrai.
Disons qu'elle a des prétentions, mais elle n'est pas forcément prétentieuse. On est d'accord ? On peut se mettre d'accord là-dessus ou pas ?
C'est pas faux.
Ouais, parce qu'il y a la fierté, effectivement, et puis il y a aussi la rage.
La rage
chez vous, ça rime aussi avec orage, quoi, pour le coup. La rage, c'est l'un de ses moteurs, quoi. Son carburant, elle a besoin des épreuves finalement pour se dépasser.
Je ne sais pas si elle a besoin des épreuves, mais en tout cas, lorsqu'elle rencontre les épreuves, c'est là où elle fait preuve d'imagination, je dirais. Elle fait preuve même de créativité, de création. C'est une créatrice, c'est presque une artiste en fait, pour pouvoir imaginer une telle vie, imaginer un tel destin, continuer à rêver ça. Je trouve qu'il y a presque de l'ordre de la création. Mais oui, c'est vrai que ce moment, il était important pour moi de l'écrire, pour revenir au moment où elle est femme de ménage, parce que justement, en fait, on a rencontré un personnage qui est, je dirais pas coloré, parce que coloré, c'est cliché, mais je dirais qu'il est très fort, qu'il est très lumineux. Et encore une fois, au-delà de l'activité en tant que telle, je crois que c'est important pour moi de montrer à quel point elle arrive dans une société qui veut l'éteindre, qui n'est pas du tout prête, qui n'est pas du tout faite pour cette lumière non plus. Je ne dis pas que la société dans laquelle elle a grandi était prête non plus, mais je veux dire, où, quand elle arrive ici, elle est renvoyée à d'autres choses, encore d'autres étés noirs, d'autres abat-jours, qui tentent un petit peu de réduire sa propre lumière, quoi.
Mais alors, c'est intéressant que vous parliez de créatrice, de création à l'instant qui est Miss. Est-ce, parce que là, ça rejoint non seulement le personnage, mais ça rejoint aussi la femme que vous êtes, à la fois en tant que romancière et peut-être plus encore en tant que poétesse. Est-ce qu'il y a besoin, justement, d'être en colère? Est-ce qu'il y a besoin d'être fière? Est-ce qu'il y a besoin d'être orgueilleuse pour écrire, pour oser écrire, et peut-être plus que pour écrire, pour oser publier, le partager avec les autres?
Quelle belle question. Je pense que... Alors... Il y a deux voies, je dirais. La première, pour être en colère, effectivement, je pense que la colère, c'est un bon moteur de création. Il faut dire les choses. C'est un bon moteur de... Il y a toute cette énergie, finalement, qui est en nous. Et quand on arrive à la canaliser de manière, je dirais, pas productive, mais bon, parce que ce mot est un peu galvaudé, mais quand on arrive à la canaliser, c'est vrai que ça peut permettre de faire émerger beaucoup de choses. Ensuite, est-ce qu'il faut de l'orgueil pour créer? Oui, je crois qu'il faut une forme un petit peu d'arrogance. Peut-être que vous allez aussi me reprendre sur ce mot, mais...
Assumez-le.
Je l'assume.
En plus, la question vous était directement destinée. Alors là, je ne me permettrai pas.
Je pense qu'il faut une forme un petit peu d'arrogance, surtout quand on... c'est pas quelque chose qui est attendu. Je pense que je fais souvent des ateliers d'écriture et quand je vais avec des ados et que je dis que je suis poétesse, je sais pas s'ils s'attendent à voir quelqu'un qui me ressemble. Donc je pense qu'il a fallu effectivement une forme d'arrogance. Et d'ailleurs, Elisabeth Gilbert, dans son livre Comme par magie, parle de ça, l'arrogance de la création. Moi, j'essaie d'aller plus loin parce que je pense que c'est quelque chose qui est un droit inaliénable, la création. Je pense qu'on devrait tous s'autoriser à créer, même si on publie pas, ça c'est encore autre chose. Mais il faut une forme, oui, d'orgueil. Parce que quand on est la seule à s'imaginer poétesse, artiste, ou même dans un autre espace, il faut pouvoir tenir, en fait, face aux questions, face aux peurs des autres, face aux doutes des autres, face à ses propres doutes aussi. Et je pense que ça, c'est important. Et je pense que c'est aussi, je crois, à mon avis, que... C'est pas je crois, puisque je sais. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire l'histoire d'Andoune.
Est-ce que écrire, est-ce que créer, qui est mise, c'est aussi avoir la force de dire non? Parce que ça aussi, c'est une expression qui revient très souvent dans votre roman à propos de votre personnage Andoune. Avoir la force de dire non, c'est facile à dire. Et dans la réalité, dans la vie quotidienne, c'est une autre paire de manches.
C'est super dur. Je pense que créer, c'est la force, avoir la force de dire non, oui, certainement dans certains cas, parce que encore une fois, je pense pas que la plupart d'entre nous sommes dans des milieux où se dire qu'on va devenir poétesse, c'est quelque chose qui va de soi. Ou même se dire qu'on va être écrivain, d'ailleurs, c'est quand même un combat, c'est une bagarre. Ensuite, c'est vrai que... je pense que c'est important pour moi de dire que moi j'écris parce que c'est la seule chose que je sais faire. J'écris parce que si j'écris pas, je pense que je disparaîtrais. J'écris comme on doit vivre, en fait. Donc je pense que j'ai la chance de pouvoir de m'être tenue à ça, et en même temps à la fois c'est une chance et à la fois je me pose la question de est-ce que j'ai même eu le choix.
na si segie, bia muoli topo, na si segie, ma kumi ma boni maliane, singi kwanza la boy, wa menepe oye mungu anetoma. Obati bande bosinya, kakani momene, mungele mungo mene no nyamze mboe. Wane otibitime, mwa premiere mi na mwra nolo, wape otibande mabumbe. Izele itama, holi, na wolo bobe. Izele itama, woza nyamze nolo. Izele itama, ezele fulperi. Izele ipokrisi, woza nyamze mboa.
Parler de danse tout à l'heure avec vous qui émise là sans révéler trop de secrets. Visiblement, vous avez du mal à rester assise. Vous avez reconnu la chanson dès la première ou la deuxième seconde. Alors, dites-nous, de quoi s'agit-il
c'est
pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu.
Alors, en fait, c'est la chanson donc, Challenge de Grace Deka, qui donc est une chanteuse camerounaise qui est fort appréciée dans ma famille, qui est fort appréciée par ma grand-mère, et elle m'a donné cet amour aussi des chansons, d'ailleurs un peu plus anciennes de Grace Deka. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très très drôle de la retrouver, puisqu'elle est, c'est vraiment, elle fait partie de la bande-son des fêtes familiales de ces dernières années, donc c'est très drôle de la retrouver à la radio, sur la fiche.
Voilà, et vous citez hein, cette chanson au détour d'un paragraphe de votre roman. Alors dans la famille d'Andoun, il y a aussi la fille c'est Freya. Quel genre de mère Andoun est-elle pour Freya?
Je crois que Andoun est une mère exigeante. C'est une mère protectrice, je dirais, protectrice, exigeante. Et c'est une mère qui voit loin aussi pour sa fille. Mais je pense que, comme souvent, quand on voit loin pour ses enfants, c'est vrai que c'est plus difficile de les faire imaginer prendre d'autres sentiers. Mais je pense que je dirais ça, c'est une mère très protectrice. Et je pense aussi que, du coup, Freya devient une encre pour Andoun.
Alors, il y a plusieurs personnages qui évoluent évidemment autour de votre héroïne. Et il y a une phrase qui revient à plusieurs reprises, pas dans la bouche d'Andoun Anne-Marie, si mes souvenirs sont bons, mais dans celle d'autres personnages, justement. Il y a cette formule, la vie, c'est la bagarre.
La vie, c'est la bagarre.
Est-ce que vous la reprendriez à votre compte, cette formule qui est mise? Est-ce que c'est comme cela qu'une femme, qu'une mère doit lancer dans l'existence sa petite fille?
Je pense que j'ai envie de vous répondre, j'ai envie de vous donner deux réponses. La réponse honnête, ce serait de dire oui, la vie c'est la bagarre. Oui, il faut se bagarrer, oui, il faut se battre, il faut être armé, il faut être entouré, il faut avoir des alliés, surtout quand la vie ne vous est pas, je dirais, offerte. Et en même temps, il y a une partie de moi plus joyeuse, puisque j'entends ma mère qui je l'entends me dire, mais un peu de joie qui est mise, ce serait bien aussi. la vie, c'est pas que de la bagarre.
Non.
Mais il y a
de la joie. Mais il y a de la joie dans le roman. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Hein. Ah, mal ça.
Alors, parce que dans la bagarre, vous parliez un petit peu de l'aide qu'on est en droit d'attendre, eh bien, en particulier la solidarité féminine, hein, et notamment la tontine, qui est aussi très importante dans la vie de vos personnages. Et puis, il y a peut-être aussi une alliée un peu particulière, c'est la question de la couleur de la peau. Vous l'abordez à plusieurs reprises aussi dans votre roman. On se rend compte que la peau claire d'Anne-Marie, c'est un élément qui, sans qu'elle s'en serve d'ailleurs de façon volontaire, l'aide énormément auprès des hommes.
Tout à fait, parce que je pense que la peau claire, elle renvoie à... Enfin, cette question de la peau claire, ça, c'est plus généralement, en fait, ça interroge la question de la beauté dans le parcours d'Anne-Marie. Et effectivement, la beauté, dans un monde qui est régi par beaucoup d'hommes, le fait d'être choisie pour sa beauté, c'est forcément un avantage pour elle, en fait. C'est forcément... Et ça, j'avais envie de l'aborder, parce qu'en fait, ça fait aussi partie de son personnage. Ça la distingue aussi des autres. Et ça la distingue d'une manière assez... je dirais si je disais politiquement, je dirais que c'est négatif. Il faudrait pas qu'il y ait du colorisme et que des personnes en bénéficient. Par contre, pour son personnage à elle, effectivement, dans la mesure où elle a pas non plus énormément d'avantages, je dirais, sociaux, ça l'avantage positivement, en fait, d'être perçue comme étant belle. Et ça interroge aussi. Ça interroge sur... comment on est choisi, comment on s'en sort, quels sont les outils qui nous permettent de nous en sortir. Je crois que j'avais vraiment envie de créer ce personnage, un personnage qui était complexe.
Quelques mots pour terminer sur la langue que vous utilisez, qui est mise une langue française, pimentée par quelques mots camerounais. Alors j'en ai noté quelques-uns. Sabi Hall, ça veut dire quoi ?
Je sais tout.
Voilà, une maison en carabote, ça je ne connaissais pas.
C'est dans un matériau particulier, il faudrait que j'ai des images, mais oui. C'est un peu des boîtes, bon. Des tôles, voilà, c'est ce genre de choses.
Ok, alors les Bogdell et les Sapac, c'est la même chose.
Oui.
Voilà, là, on va s'arrêter là, voilà. Alors, whitezer, on parlait de couleur de peau à l'instant, whitezer, ça veut dire faire comme les Blancs, c'est
tout
ça ?
Tout à fait, ça veut dire reprendre l'accent des Blancs. Ça veut dire essayer de gommer son propre accent à soi et parler comme les Blancs.
Congossa ?
Ah, ça veut dire les ragots.
Voilà, il y en a beaucoup, hein, visiblement, dans l'entourage.
Les commérages, je dirais.
Dans l'entourage de votre personne. Et puis, il y a le verbe fiasser, qui revient très souvent aussi sous votre plume.
Oui, c'est chipper, du coup.
C'est chipper.
C'est ce qu'on appelle, ce qu'on dit, on dit chipper, mais moi, j'ai appris fiasser.
Merci, merci beaucoup, Kiémis.
Merci beaucoup pour ce très bel échange.
Et Refleurir, votre premier roman, donc paru aux éditions Philippe Ray, dans une poignée de secondes, le journal en français facile sur RFI. Merci à tous de nous écouter, merci également de votre fidélité. Cette émission était une rediffusion. On se retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures culturelles. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.